Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui de la synthèse du 2-méthylpropanéol qui peut être utilisé, comme on le voit, comme solvant, comme carburant aussi, dans le carburant pour augmenter l'indice d'octane, etc. Alors, la première partie concerne le suivi temporel de la transformation par conductimétrie. Et en première question, justement, on nous demande de justifier qu'un suivi temporel de la transformation peut se faire à l'aide de mesures conductimétrique. Alors pour pouvoir utiliser la conductimétrie, il faut qu'il y ait des ions et que leur concentration varie au cours du temps. Ce qui est le cas ici puisque des ions, on voit, sont produits de la réaction et ces ions sont les ions oxonium H3O+ et les ions chlorure Cl-. Leur quantité va augmenter jusqu'à devenir constante à la fin de la réaction. On saura alors que la transformation est terminée. Question 2. Donner l'expression littérale reliant la conductivité, donc sigma de T de la solution, et les concentrations en quantité de matière des espèces chimiques concernées. Donc sigma, d'après la loi de Colroche qui nous est rappelée, la somme des I lambda I fois la concentration de l'espèce XI, lambda I qui est la conductivité ionique molaire, et XI la concentration molaire en mol par mètre cube ici. Donc on a deux types d'ions qui sont un cation H3O+, un anion Cl-. La conductivité est la somme donc de lambda H3O+ fois la concentration H3O en H3O+, plus lambda Cl- fois la concentration de l'ion chlorure Cl-. Donc on nous explique après comment ont été trouvées entre guillemets les courbes qui sont présentées en annexe à rendre avec la copie. Et question très classique à savoir maîtriser, la question 3. Donc déterminer la valeur de la vitesse volumique de disparition du réactif à la date t égale 1 minute et à 25 degrés. Donc on ne se trompe pas de courbe, on se place bien sur la première courbe qui correspond à 25 degrés, et au temps, 1 minute également. Alors pour ça, on se souvient que pour déterminer déjà, il faut savoir ce que c'est une vitesse volumique de disparition. Donc on rappelle que son expression est moins d de la concentration du réactif, de l'espèce qui disparaît, sur dt, c'est-à-dire l'opposé de la dérivée de la concentration du réactif par rapport au temps. La méthode est toujours la même pour évaluer justement cette valeur de vitesse. Il va falloir tracer sur la courbe la tangente à la courbe au temps considéré, c'est-à-dire ici à 1 minute. Et on sait que la vitesse en valeur absolue, ça va correspondre donc au coefficient directeur de cette tangente. Donc il faut être capable de tracer la tangente déjà à 1 minute et de déterminer quel est le coefficient directeur à cette tangente. Pour calculer le coefficient directeur, on rappelle, donc c'est la variation des ordonnées sur la variation au niveau des abscisses. Donc ici, en traçant le mieux possible la tangente sur l'annexe à rendre avec la copie, on constate que cette tangente elle coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire des concentrations vers 34 mol par mètre cube, et puis elle coupe l'axe des abscisses à environ 2,4 minutes. On peut donc calculer la valeur absolue de ce coefficient directeur, qui va être le coefficient directeur déjà. Donc 34 sur l'axe des ordonnées moins 0, donc variation au niveau des concentrations, et variation au niveau du temps, donc 0 moins 2,4, ce qui nous donne un coefficient directeur d'environ moins 14 mol par mètre cube par minute, et ce qui nous donne une vitesse, comme on la compte comme en physique aussi positivement, une vitesse d'environ 14 mol par mètre cube par minute. Question 4. On nous demande de déterminer la valeur, aussi question très classique, du temps de demi-réaction à 30 degrés Celsius en explicitant la démarche suivie. Et on veut la comparer à celle de l'expérience, aussi à 25 degrés Celsius, et de proposer une interprétation. Donc on se souvient que pour T égale T1 demi, l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Donc ici le réactif limitant qui est RCl, et cette quantité de réactif et donc sa concentration va être divisée par 2. Donc au maximum, elle est à 70 mol par mètre cube. Et donc pour une température de 25 degrés, quand on prend la moitié de 70, donc on trouve 35 mol par mètre cube. Pour une température de 25 degrés, ça correspond à peu près 0,5 minutes. Et pour une température de 30 degrés, on constate que ça correspond à peu près à 0,25 minutes. Donc on constate que plus la température augmente et plus T1,5 diminue, c'est-à-dire plus la transformation va se faire rapidement, ce qui correspond au fait que la température est un facteur cinétique. Plus on augmente la température et plus la durée de la transformation va être courte, c'est-à-dire plus la transformation va se faire rapidement. Alors, partie B2, hypothèse sur l'ordre de la réaction par rapport à l'espèce chimique RCL. Avant de passer à cette partie-là, juste pour commenter aussi la fin de cette question-là, donc sur la température comme facteur cinétique, comment on peut l'expliquer aussi, ça pourrait être une question microscopiquement. Plus la température est élevée, plus les réactifs vont être agités, les molécules ou les ions vont être agités, ce qui va augmenter la probabilité d'avoir des chocs efficaces entre réactifs et donc que la réaction se fasse plus rapidement. Donc passons à la question 5.1, donner la définition de la vitesse volumique V de disparition de RCl qu'on a déjà donnée tout à l'heure. V donc c'est l'opposé de la dérivée de la concentration de RCl par rapport au temps. Donc la concentration variant on la note entre crochets, donc c'est moins D de RCl sur DT. Question 5.2, déduire l'expression de l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par RCL. Donc, si c'est une. On nous dit que si l'eau est en large excès, la vitesse volumique de disparition de RCL s'écrit V égale K fois RCL. On le sait, on doit le savoir aussi, dans le cas d'un ordre 1. Donc, V égale K fois RCL. Donc, on a à la fois V qui est égal à K fois RCL, et V, comme on vient de le dire, c'est l'opposé moins D de RCL sur DT. On a donc V qui vaut à la fois moins D de RCL sur DT et K fois de RCL. Si on passe tout du même côté, ce qui va nous donner donc D de RCL sur DT plus K de RCL est égal à 0. On a bien une équation différentielle du premier ordre vérifiée par RCL, puisqu'on a à la fois la concentration de RCL et la dérivée de la concentration de RCL par rapport au temps. On nous dit que la solution de cette équation est du type RCL égale RCL initial, concentration de RCL initial fois exponentielle de moins KT, où RCL 0 est la concentration de composés RCL à la date T égale 0. On a une évolution du type exponentielle la décroissante, qu'on trouve aussi par exemple, pour faire l'analogie, avec la radioactivité et la désintégration des noyaux radioactifs. Alors on nous demande d'en déduire l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse K. Alors, c'est une démonstration analogue à celle qu'on peut faire également en radioactivité. Pour cela, on va exprimer la concentration de RCL à T1,5. On sait que ça va être la concentration initiale divisée par 2. Et en utilisant aussi l'expression donc de l'équation RCL de T égale RCL 0 fois exponentielle de moins KT, on peut écrire que RCL à T1,5, c'est aussi RCL initial 0 fois exponentielle de moins KA fois T1,5. Et donc on cherche justement T1,5. Le problème, c'est qu'il est, dans l'exponentielle. Et donc il va falloir le faire, entre guillemets, descendre de l'exponentielle. Donc déjà, on peut simplifier les RCL 0, concentration RCL 0 initiale, ce qui va nous donner 1,5 qui est égal à exponentielle de moins K fois T1,5. Pour se débarrasser entre guillemets de l'exponentielle, on compose par la fonction inverse qui est la fonction logarithme n'est pas rien ln. Donc on compose des deux côtés, ln de 1,5 d'un côté, ln d'exponentielle de moins kt 1,5 qui va donner donc moins k fois t 1,5. Ln de 1,5 c'est ln de 1 moins ln de 2, ln de 1 qui est égal à 0. Il reste donc moins ln de 2 égal à moins kt 1,5 et on trouve un résultat important qui est que t 1,5 c'est ln de 2, donc une constante divisée par k. Et donc justement, on souhaite comparer à 30 degrés Celsius le temps de demi-réaction expérimentale déterminé graphiquement à la question 4 et le temps de demi-réaction calculé dans le cas du modèle, là qu'on vient d'expliciter à cette question précédente. Donc, question 6.1, Donc on sait que déjà déterminée sur le graphique 2, donc elle est égale à vitesse initiale à 3,9 mol par mètre cube par seconde. On va pouvoir utiliser le fait que comme on est dans un ordre 1, V0, ça va être égal à K fois RCL 0 initial. Et donc si on veut K, on va faire V0 divisé par RCL 0. Donc RCL 0, c'est 70, comme on l'a dit tout à l'heure, mol par mètre cube. Et la vitesse initiale, on nous la donne, elle est égale à 3,9 mol par mètre cube par seconde. Ce qui nous donne finalement K égale 3,9 sur 70, ce qui nous donne 5,6 10 moins 2 secondes moins 1. Donc ça, c'est pour la question 6.1. La question 6.2, en déduire la valeur du temps de demi-réaction calculée dans le cadre du modèle de la question 5 commentée. Donc on a à la question 5.3 montré que T1/2 c'est logarithme des périodes de 2 sur K. Donc ça nous donne ln de 2 sur 5,6 10 moins 2 qu'on trouve à la question précédente pour le K, ce qui nous donne 12 secondes, soit à peu près 0,20 minutes. À la question 4, on avait obtenu T1/2 graphiquement 0,25 minutes. On trouve un écart relatif élevé, hein, ce qui ferait 25% d'écart relatif, ce qui est beaucoup. Alors on peut soit dire qu'il y a un problème au niveau de la lecture graphique, bien sûr, qui n'est pas ultra précise, mais également peut-être douter sur est-ce que la loi de la vitesse choisie d'ordre 1 était, est-ce que c'était vraiment un ordre 1 pour cette réaction-là? Voilà pour cet exercice important. Qui permet de réviser donc les notions de cinétique, de facteur cinétique et également aussi de conductivité. À bientôt.